Bonjour, merci Monsieur Kouen pour cette brillante présentation. Alors j'ai une question toute simple, c'est-à-dire au début de l'application des accords de partenariat économique, il y avait un débat qui avait cours, c'est-à-dire que la libre circulation des produits entre l'Europe et l'Afrique entraînerait une baisse drastique des recettes budgétaires. Parce qu'il y avait la levée des barrières douanières sur certains produits. Donc les recettes budgétaires avaient considérablement diminué. Et je constate ici, vous dites, la croissance du PIB. Lorsque les deux accords sont appliqués, nous observons une observation du PIB. Patati patata, voilà. Donc je voudrais savoir, vous voulez nous faire comprendre que les accords de partenariat économique et... la ZELECAF entraîne systématiquement une augmentation du PIB et que ce débat-là sur les recettes budgétaires, on doit le mettre de côté. C'est la question que j'ai à poser. Merci.
Merci beaucoup. C'est
monsieur
Mangel.
Monsieur Mangel, encore.
Oui, bien sûr. Merci, monsieur Mangel. Accords de commerce, tous les accords commerciaux ont un impact sur les revenus douaniers. Au Cameroun, on a perdu environ 71 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? D'après les données les plus récentes du MINFI et du ministère et des douanes. Alors, il y aura ces pertes, mais la libre-échange est ici pour encourager plus d'entreprises à entreprendre et à exporter. Alors, ces 71 milliards, comment est-ce que le Cameroun va générer ces 71 milliards sans augmenter les taux d'imposition à des particuliers ou des entreprises? Premièrement, si nous avons plus d'entreprises qui s'enregistrent formellement, cela va créer plus de revenus en termes de taxes. Deuxièmement, nous avons des TVA. Chaque produit qui est créé au Cameroun, nous avons une TVA qui est opposée à ce produit. Donc, si ces accords vont encourager la création des richesses, qui va augmenter les recettes du gouvernement en termes de TVA, mais aussi en termes de contribution nette. Donc voilà pourquoi le focus ne peut pas être sur les pertes. Parce que... En Europe, par exemple, quand ils ont commencé avec l'Union européenne, ça a coûté des économies jusqu'à 0,5 à 2% du PIB en termes de pertes. Mais si tu regardes aujourd'hui, la majorité de ces pays ont convergé, sauf les pays en Europe de l'Est. Alors, pour avoir cette même convergence, oui, il va y avoir des pertes, mais nous allons bénéficier dans le long terme si nous implémentons des réformes nécessaires pour pouvoir tirer le bénéfice. Alors, nos jus d'orange et nos céréales n'ont pas à venir de l'Allemagne ou de l'Arabie Saoudite. Peut-être que ça sera produit ici, au nord, ou peut-être que ça sera produit à Evoloa ou à Limbé. Et on va l'acheter à Cameroun pour 2500, dont 500 va directement au gouvernement. Alors, ces accords sont là pour nous donner l'opportunité de commercer avec d'autres pays. Et pour les entreprises qui sont déjà au Cameroun, ils vont exporter beaucoup plus. Donc les chiffres d'affaires vont augmenter. Et prenons l'exemple des SABC qui a épargné environ 1,3 milliard depuis que nous avons commencé à implémenter la PEU. SABC importe des produits d'autres pays pour pouvoir fabriquer la bière, des produits, des machines industrielles, etc. Et ils ont déjà épargné presque 1,3 milliard. Donc, plein d'entreprises auront accès à des produits beaucoup plus chers, beaucoup moins chers. Et cela va améliorer l'offre de leurs produits ici au Cameroun. Alors, c'est gagnant-gagnant, mais dans le court terme et dans le moyen terme, oui, nous avons des pertes en termes de recettes douanières.
Bonjour, monsieur Kouen. Je suis Martial Obiona. Je cite l'information en ligne Conjoncture Cameroun Eco Business, directeur de l'information du journal Conjoncture Économique. J'ai pris le soin de parcourir votre rapport qui fait de beaucoup de chiffres, de nombreuses réflexions. Alors, je voudrais m'arrêter sur deux aspects clés, celui relatif au bien-être des ménages Dans votre rapport, vous indiquez que les salaires augmentent de 0,91% en 2020 contre 0,88% en 2030. Si on fait une analyse comparative, on assiste à une tendance à la baisse de 0,03%. À quoi est-ce que cette situation est attribuée? C'est la première question. La deuxième question concerne la ZCAF en elle-même. À date, la ZCAF, c'est un marché de 1,2 milliard de consommateurs qui, d'ici 2050, devrait se projeter à 2,5 milliards de consommateurs. Donc, au cours des 25 prochaines années, on va assister à une augmentation de 1,3 milliard de consommateurs. Est-ce qu'avec le temps, la ZCAF va présenter des signes d'essoufflement dans un contexte où cette ZCAF ouvre la voie à l'auto-entrepreneuriat?
Merci beaucoup. Donc, votre première question, c'est sur le bien-être. Au Cameroun, les salaires sont décidés maintenant par les partenaires sociaux et le gouvernement, n'est-ce pas? Ils travaillent ensemble pour déterminer combien les travailleurs vont gagner dans différents secteurs. Mais les montants sont également déterminés par le taux d'inflation. Donc, si le taux d'inflation augmente par environ 6%, le gouvernement peut dire, voilà, les paiements doivent augmenter d'environ 0,5% ou 1%. Ce que la libre-échange fait, c'est quoi? L'APE va faire en sorte que nous pourrons importer beaucoup plus de produits provenant de l'Europe. Et si avant l'APE, par exemple, un jus d'orange provenant de l'Allemagne était à 1 200, après l'implémentation de l'APE, ça serait environ 1 000 francs. Donc, ça serait moins cher pour les particuliers d'accéder à des différents produits dans des supermarchés. Ce qui veut dire que ça va baisser le taux d'inflation et alors les paiements auront tendance à tomber parce que le taux d'inflation ne sera pas très, très élevé. Alors, les salaires vont augmenter très graduellement. Mais aussi, le Cameroun a un secteur informel très, très large. Environ 75 à 88% de nos travailleurs sont employés dans le secteur informel, ils sont bloqués dans le secteur informel. Alors le fait que certains travailleurs vont, par exemple dans le secteur de la logistique, certains travailleurs vont quitter de l'informel à le formel, et il y aura plus de personnes qui voudront quitter de l'informel à le formel. Ça veut dire que vous, si vous avez une entreprise de logistique, vous aurez tendance à payer moins et non plus. Parce qu'il y a une très forte demande pour les emplois sécurisés. Avec le temps, l'APE va encourager plus d'entreprises à formaliser leur emploi. Mais cela veut dire que ces entreprises pourront déterminer un peu plus combien ils pourront payer. Bien sûr, cela va venir des directives de l'État et des partenaires sociaux, mais le fait que l'inflation va baisser dans le long terme veut dire que les salaires ne vont pas augmenter énormément. Et le fait que nous allons avoir cette migration du secteur informel à le secteur formel qui serait difficile et compliqué, et très complexe, cela aura tendance à baisser à limiter l'augmentation des salaires. Et concernant votre deuxième question sur l'auto-emploi, l'auto-emploi pourra bénéficier de l'APE, l'APE et la ZLECAF si les auto-entrepreneurs sont outillés à tirer les bénéfices de ces accords. Premièrement, pour bénéficier d'un prêt, avant de parler des prêts, le ministère de Finances, dans la loi de finances 2024, le ministère de finances a mis un dispositif de 200 milliards, un dispositif, un mécanisme de crédit pour supporter les PME. Est-ce que pour faire en sorte que l'auto-emploi puisse bénéficier de ces accords, ces personnes, nous parlons des boutiquiers, nous parlons des personnes qui travaillent dans les salons de coiffure, de coiffeurs, de coiffeuses, etc. Ces personnes doivent être en mesure d'accéder à ces différents prêts. Ces différents mécanismes de financement ne doivent pas juste être accessibles à des PME. Mais pour qu'une couturière à Titi Garage ou à Essence puisse accéder à ce mécanisme de financement, il va falloir l'outiller également. Alors, le travail pour nous en tant qu'ONG, c'est de former proprement, mais pour les décideurs, c'est de faire mettre des mécanismes et des dispositions en place qui sont claires, qui sont utiles pour que ces personnes puissent bénéficier. Mais sinon, ces personnes ont toujours joué un troisième rôle, c'est d'apporter des différents produits ou des différents services à des entreprises qui, à leur tour, exportent vers d'autres pays. Merci.
Merci beaucoup de donner la parole. Steve Tamedon,
je vais faire un commentaire,
une question. En lisant, je voudrais féliciter le CEPI pour ce travail de fourmi qui est fait. Et on y regarde ensemble sur les productions qui sont faites sur les questions d'intégration régionale et économique. On doit comprendre que c'est un des rapports qui systématise quand même la question des accords de partenariat économique et la ZELCAF, l'incident. La première question que je voudrais poser, c'est une question de méthode. Du rapport. Peut-être le rapport dira beaucoup de choses en léant, mais en vous écoutant, je n'ai pas le sentiment d'avoir très bien compris quelle est la méthode de l'approche. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a le sentiment, en regardant tous les chiffres, le rapport est énormément chiffré, mais est-ce que vous étudiez l'impact de la ZELCAF sur l'économie camerounaise, d'une part, et l'impact des accords partenariats économiques d'autre part sur l'économie camerounaise, ou alors vous étudiez l'impact des deux accords sur l'économie camerounaise, parce que c'est deux accords bien distincts. C'est la première chose, c'est une question de méthode. Deuxièmement, vous évoquez des bornes temporelles, vous évoquez 2020 et vous évoquez 2030. Les chiffres me semblent suffisamment flambants. Je n'ai pas le sentiment, je voudrais vous demander, est-ce que vous voulez nous dire que ces accords qu'ont ratifié le Cameroun ne seront que bénéfiques pour l'économie camerounaise? Parce qu'on parle beaucoup de PIB, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir entendu la question de la production locale. Parce qu'il me semble que dans la démarche d'intégration, vous avez bien évoqué les règles des régimes qui sont fondamentales. Vous avez parlé de la stratégie nationale camerounaise, mais il me semble que pour rentrer dans un accord d'intégration, il faut être capable d'apporter quelque chose, parce que c'est du donner et du recevoir. Je me demande bien, est-ce que lorsque vous donnez le sentiment que ces accords sont essentiellement bénéfiques pour le Cameroun, mais quelle est la part de la production locale? Parce que vous parlez plus de PIB, mais qu'en est-il de la production locale? Je parle de la production locale en vous faisant observer deux choses. La première chose, c'est que le bureau de mise à niveau des entreprises qui a été créé dans le sillage de l'adoption de l'APE a été tout récemment absorbé par un décret du président de la République qui réforme la SME. Conséquence, cette instance qui était en charge d'accompagner les entreprises pour un niveau de production, quand même, ne peut pas nous dresser un bilan en réalité. Deuxième chose, le GICAM qui est passé au GICAM aujourd'hui a un problème particulier dans son rapport avec l'administration publique camerounaise, parce que le GICAM, vous l'avez dit, se plaint de ce que les entreprises, de ce que les impôts sont suffisamment importants et estime que la pression fiscale est très importante. Par conséquent, rentrer dans un commerce où le secteur privé est fondamental, joue un rôle fondamental, et laisser penser, donner le sentiment que cet accord est bénéfique, je me pose des questions. La contribution, maintenant que je le fais, j'espère que les questions ont été, elles ont un peu été dites de manière désordonnée, oui, peut-être trois ou quatre, mais la contribution, pour terminer, c'est que je ne sais pas si votre rapport, lorsqu'il se projette, parce que j'ai demandé les bornes, vous avez parlé de 2020-2030, qu'est-ce qui justifie le choix de ces bornes? Est-ce que c'est la SND ou autant de choses? Mais est-ce que votre rapport prend en compte, parce que vous savez bien que l'économie et la politique sont liées, est-ce que votre rapport prend en compte l'année 2025 qui est une année fondamentale dans la structure même du politique et de l'économie camerounaise? Vous savez combien l'annonce du décès, entre guillemets, du président de la République, j'espère qu'en tant qu'économiste, vous avez vu les incidences immédiates en termes d'investissement. Est-ce que votre rapport prend cela en compte?
Enfin, j'ai toujours le sentiment, parlant de Julie, ce qui est mon sentiment personnel, la ZK et la force partenaire aujourd'hui. J'ai toujours le sentiment que la ZCAF est un projet africain grand et que les accords de partenariat économique qui sont signés avec l'Union européenne sont venus, sont d'une certaine manière venus contrepartout et qui sont une entrave à la mise en place de la ZCAF. J'explique pourquoi. Le Cameroun, en termes de production, rentre dans la ZCAF, mais n'apporte pas grand-chose en termes de production. Deuxièmement, il ouvre son économie à une économie plus forte. Regardez par exemple l'émergence de tous les supermarchés Carrefour et tout ce qu'on nous partout, vous parlez de ça bien. Mais ces accords partenariat économique qui favorisent cela, parce qu'ils ont libéralisé son marché, ils ont libéralisé ses droits de douane, et bien toutes ces entreprises viennent avec leurs produits. Qu'apporte le Cameroun en retour? Ça, c'est la question. J'ai le sentiment donc que l'économie camerounaise, lorsqu'on la regarde, c'est peut-être assez vite allé de penser que ces accords sont peut-être les plus favorables. Pour ma foi, s'il faut rester sur deux indicateurs, précisément, la question des ménages, ça pose un véritable problème. Et deuxièmement, la question du bien-être des Camerounais, ça pose un autre problème. Donc, rester focus sur le PIB, je pense, je ne sais pas si le rapport est suffisamment illustratif sur ces aspects que je viens de dire. Je le dis vraiment de manière générale, et peut-être à la lecture du rapport, on aura l'occasion de le dire.
Oui, exactement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dr. Steve. Donc, je vais commencer par la méthodologie. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est un aperçu. Le rapport est environ 64 pages. Donc, il y a des explications sur absolument tout. La raison, et je vais juste donner un aperçu de notre méthodologie vite fait. Alors, on utilise un modèle d'équilibre général, calculable, dynamique, régional. C'est un modèle utilisé spécifiquement quand je veux mesurer l'impact des accords commerciaux ou l'impact du commerce entre deux pays. C'est utilisé par CEPI, c'est le même modèle qui a été utilisé par la Banque mondiale quand ils ont voulu mesurer l'impact de la ZCAF sur les pays africains. Alors, ce modèle est standard, utilisé par les experts, les institutions de l'industrie. Deuxièmement, pourquoi est-ce que nous avons choisi 2020 et 2030? Parce que quand je compare le commerce entre le Cameroun et 51 pays, c'est difficile de trouver des données pour toutes les années. N'oublie pas, quand nous mesurons l'impact sur le PIB, nous mesurons l'impact sur la consommation, dans la consommation des entreprises et des ménages, l'investissement privé, public, et les dépenses du gouvernement, moins les exportations, plus les exportations, moins l'importation. Alors, ce qui veut dire que nous avons pris en compte la production locale, par exemple, dans le secteur agricole, mais également dans le secteur de la manufacturation. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour présenter tous les secteurs et tous les secteurs de l'économie. Mais dans le rapport, vous allez avoir des tableaux détaillés des différents secteurs et comment est-ce que ces secteurs vont bénéficier leur contribution en termes du commerce du Cameroun envers les différents pays. Donc, si vous regardez à partir de la page 58, vous aurez tous les chiffres, toutes les informations. Deuxièmement, en ce qui concerne nos données, ce rapport est le premier et illustre parce que nous avons pris la peine de choisir des années pour lesquelles nous avons les données. Alors, raison pour laquelle on a choisi l'année 2020, c'est parce qu'en 2018, on a signé la ZCAF. Et dans 2 ans, tu peux déjà avoir un bon aperçu de la manière dont un accord commercial impacte une économie. Et la raison pour laquelle on a choisi 2020, c'est parce qu'en 2014, on a mis l'APE en marche. Alors, 2010 à 2030 nous donne 10 ans pour faire le bilan proprement de ces accords et leur impact sur l'économie camerounaise. NAFTA l'a fait après 10 ans. La majorité des économies dans le monde entier le fait après 10 ans, chaque décennie en fait. Alors c'est mieux de faire des prévisions pour une décennie et de mesurer l'impact pour une décennie. Comme ça, dans 10 ans, quand nous sommes dans cette salle, on peut voir si réellement le PIB a augmenté par 7,5% et sinon, quelles sont les raisons. Dernièrement, en ce qui concerne les ménages, ce rapport a pris une approche un peu plus globale. Alors, quand nous regardons les exportations, par exemple, ça inclut la contribution des différentes mains d'œuvre du secteur informel. Quand nous regardons le secteur agricole, ça prend en compte également la production des petits agriculteurs. Alors, on a considéré énormément la consommation et la contribution du secteur informel. C'est vrai que ce rapport est un peu plus axé sur la vue macro, mais nous avons fait en sorte que les différentes parties prenantes sont prises en considération. Merci beaucoup. Oui, monsieur, et puis monsieur Yannick Yélevi. Des questions, s'il vous plaît. On aura une session, une discussion de 30 minutes après, donc s'il te plaît, juste des questions et réponses.
Ok, thank you very much.
Can you wait for the mic? Does someone have the mic? Talk to us. You've given it. I'm Darwin, well, go ahead.
Okay, I'm called Lobia Kindo Tombe. I report for CM2 Radio and I publish news upfront online. So when I listen to the presentation of a new presentation of the report, I understand that it's more of projection.
Thank you. So I see when I listen to the presentation, the understanding is that it's more of projections for 2030. And you've said it yourself that since 2014, the Economic Partnership Agreements were enforced. Since 2018, the African Continental Free Trade Area went operational. And from 2018 to 2024, where we are, things have happened. 2024 to 2030 is 6 years. 2018 to 2024 is equally 6 years. So my worry is, I was expecting the report to present more of the impact so far, like what has happened from 2018 to 2024. Has Cameroon benefited from something? Are there some statistics on what Cameroon has benefited, or is it just now that we want to start seeing how or what Cameroon will benefit in 2020? Was there not a possibility for the report to instead tell us that, okay, since 2018 till date, this is what households have benefited, this is what Cameroon has done, so that it will paint the picture brighter for the government to equally see where they didn't meet up the standards, so that the government will now come in and see how it can leverage before 2030. So if there are some statistics on the achievements so far, I would like to get them. Thank you.
Okay. Perfect. Thank you so much. So this report is not only projections. If you look at the report carefully, you would find that, and I encourage everyone to go on our website and read the report, please. You would find that we have charts for every single economic indicator for 2020 and for 2030. So we've already measured the impact from the year 2020. Now, if you look at... let's take wages, for example. Just give me 1 second. So let's take the service sector, for example. Consumption under the AFCFTA. The AFCFTA has already caused consumption to increase in the service sector by 1.97%, which means that consumption in the service sector is tourism, financial services, banking, etc., you name it. Industrial commodities, we've already seen an improvement of 2.6% because Cameroon and Africa, we tend to trade intermediate products between ourselves a lot more than processed products. So we're already seeing some positive impacts. Agricultural commodities, of course, consumption has increased by 1.46%. We had a shipment of raisin and tea from Tunisia, the only shipment from the African Continental Free Trade Area. So we're already seeing some positive benefits. In terms of consumption. So I encourage you to just, if you look at the report, there are some scenarios where we've pointed out what the benefits have been in 1 year, which is 2020, versus what we expect them to be in 2030. So all those details can be found, all those details can be found further in the report. Any other question? Oh yes, Mr. Yannick.
Merci de me passer la parole. Je suis Yannick Mouyé, je suis journaliste économique. Par ailleurs, notre projet... là. Et c'est vrai, vous avez refusé qu'on se permette un petit commentaire.
Oui, oui, mais parce qu'on aura le temps de le faire.
Le temps de le faire, très bien. Mais vous avez, vous n'avez pas suffisamment insisté sur, sur l'influence de la Chine. La Chine dans la matérialisation de la zone de libre-échange continentale, qui aujourd'hui a mis sur pied sa nouvelle politique de la soie, qui a des objectifs spécifiques. C'est-à-dire que la Chine veut inonder le marché africain à travers ses produits. Elle est en surproduction. La Chine aujourd'hui veut trouver des débouchés d'emploi pour ses ressortissants. Toujours dans le même marché de la zone du marché continental. Et en retour, la Chine veut les matières premières. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas que la Chine peut être un partenaire extra-marché africain qui tire beaucoup plus profit que beaucoup d'autres pays dans le tissu industriel et assez faible. Parce que lorsqu'on présente la zone du marché continental africain, les pays qui ont le vent en poupe, c'est ceux qui ont une marge de manœuvre dans le secteur de la manufacture ou de l'industrialisation. On peut citer l'Égypte, on peut citer l'Afrique du Sud, quelque part on peut évoquer le Nigeria ou encore le Kenya. Mais les autres pays africains n'ont pas assez de marge de manœuvre. Est-ce que ça ne se présente pas comme une opportunité pour la Chine de venir, n'est-ce pas, tirer grand profit? Parce que dans le travail formidable que vous avez réalisé, on n'avait pas mis l'accent sur ce partenaire qui est en train d'envahir la plupart des marchés. La deuxième chose maintenant, c'est que le marché, conquérir un marché, voudrait que dans le secteur secondaire, il y ait une base, notamment le secteur primaire. Mais on sait combien chez nous, le secteur primaire est assez pauvre. C'est-à-dire quand vous rencontrez les entrepreneurs qui font dans les muscles ou l'agro-industrie, vous remarquez qu'ils n'ont pas suffisamment de matières premières. Vous pouvez le faire dans la farine de manioc, vous pouvez le faire dans les jus. Aujourd'hui, par exemple, l'ananas, pour faire du vin d'ananas ou encore du jus, il manque, il n'est pas assez abondant. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps, d'ailleurs, la question foncière s'est posée. Dans vos recommandations, pourquoi vous n'avez pas évoqué la question de l'accès aux terres pour densifier davantage, n'est-ce pas, le secteur primaire qui est un secteur encore pauvre au Cameroun? Donc, c'est cet aspect-là que je voulais un peu connaître. Tout bien pour vous, ce n'est pas aussi important que cela. Merci.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Yannick. Alors, dans notre introduction, on a dit le marché, on exporte environ, nos exportations vers la Chine sont entre 7 et 14% du total. Et on exporte du cacao, les lubrifiants, des équipements, etc. Et on importe des voitures, des lubrifiants, etc. Il est vrai que notre relation avec la Chine est très dépendante. Mais la raison pour laquelle on n'a pas évoqué la Chine énormément dans ce rapport, c'est parce que ces deux accords n'ont rien à voir avec la Chine. L'accord de partenariat économique à avoir est focalisé sur nos relations avec l'Europe. Et la SLECAF est focalisée sur notre rapport commercial avec le reste de l'Afrique. Donc, il y aura un autre rapport pour la Chine. Nous sommes en train d'y travailler. Mais ce rapport se focalise sur l'Europe et sur l'Afrique. Voilà pourquoi on n'a pas évoqué la Chine énormément. Mais il est vrai que la Chine bénéficie énormément du Cameroun. Ils amènent leurs travailleurs pour travailler sur des sites, leurs produits entre au Cameroun à moindre coût et nous ne sommes pas assez compétitifs. Mais la Chine, très récemment, a dit que tous les pays en Afrique peuvent exporter envers la Chine et pas payer les droits de douane. Dans la plus récente réunion BRICS, l'avant-dernière, le China Africa Forum, FOCAC. Alors, les Camerounais peuvent déjà exporter envers la Chine sans avoir énormément des impédiments. Mais n'oublions pas que si nous réduisons les tarifs douanières à zéro, ça ne veut pas dire qu'un produit camerounais pourrait facilement entrer en Chine. Parce qu'on peut avoir d'autres problèmes de packaging, de traduction, du français, anglais à chinois, etc. Il y a plein d'autres mécanismes utilisés par des pays pour défavoriser les produits camerounais. Alors, il est vrai que la Chine profite énormément du Cameroun et nous devons penser clairement à rééquilibrer ce partenariat. Donc, dans le secteur des infrastructures, par exemple, nos conventions doivent dire qu'environ 25% des travailleurs doivent être formés par la Chine. Et nous, en revanche, on doit vérifier que ces formations ont été faites. en faisant que, par exemple, ils travaillent directement dans d'autres projets d'infrastructure en terminant leur projet avec les Chinois. Deuxièmement, en termes d'agriculture, nous pourrons dire à des entreprises de manufacturation chinoise de ne pas juste exporter de la Chine, mais aussi imposer, comme les États-Unis le font, et imposer qu'ils viennent ouvrir des entreprises de manufacturation ici pour les Indomie, pour les jus, pour d'autres produits utilisés dans notre quotidien, ici au Cameroun, pour former les Camerounais pour qu'ils puissent développer une base industrielle compétitive. Et pardon, la deuxième question était sur... L'accès aux terres est très important pour nous. Si vous regardez nos programmes, vous allez voir le Green Agriculture. C'est très, très important pour CEPI. Mais la raison pour laquelle on n'a pas évoqué ce sujet ici, c'est parce qu'en termes d'agriculture, la majorité des... la raison pour laquelle notre secteur agricole n'est pas très croissant et développé, ce n'est pas à cause de l'accès aux terres. Il est vrai que l'accès aux terres a un impact en ce qui concerne les paiements et la qualité et le niveau de vie des différents acteurs dans différentes villes, différentes zones rurales. Mais en termes d'exportation brute ou en termes de qualité de produits agricoles et de transformation, l'accès aux terres n'a pas un impact important, signifiant. Mais mais il est vrai que c'est important pour d'autres producteurs en termes de amélioration de la qualité de vie, paiement d'impôts, potentiellement développer d'autres entreprises, etc. Mais voilà la raison pour laquelle on n'a pas évoqué cela dans ce rapport spécifiquement. Mais c'est un sujet très important pour nous. Autre question médiane?
Oui, une dernière juste.
Est-ce que vous comprenez la dame derrière et puis on revient, monsieur? Voilà les deux dernières questions.
Mr. Henry, that was a beautiful presentation, by the way. You touched almost all of my questions. So I'm going to ask this one. It's a soft question. It's about job creation. I would like you to briefly discuss what's the expected impact of the SLECA and APE on job creation in Cameroon, particularly for women and youth.
Thank you very much. If you just allow me, I might.
Thank you very much for your question. So, as we highlighted during the presentation, when you look at welfare, you find that wages are going to increase. Now, in terms of job creation, the APE, the Economic Partnership Agreement, which is EPA, and the African Continental Free Trade Area are going to boost job creation because once businesses have the opportunity to sell to Nigeria, to Morocco, to Egypt, to Ghana at very little cost, it will encourage them to grow their activities. In Cameroon, we already have several startups that sell or who market their services to other economies, from Nana Greek, who does like packaged gari, to Petty Cash, who helps people across the continent save. So it's already happening. Now the question is, jobs are going to be created when the business environment is improved and more businesses export. Because if you manufacture water, juice, or detergent, and you start exporting to Nigeria, or you start exporting to South Africa tomorrow, if in 2 months your export orders increase to 10 million, you're going to hire more people, which means that you're going to hire more youths and hopefully more women. This is not to say that people just don't hire all of their families, but what we have to try and do is that if we want more women and youth to be employed, we also have to invest in an educational system to make them employable. Because if I start my detergent company today, I just don't want people who would come and package it and put it in bottles and sell. No. You also want people who would come and innovate the packaging, innovate the quality of the service. So it starts from us really with a commitment to invest in education first, and also make sure that we sensitize more companies to train their employees on how to sell or how to do their jobs better. we have to, you know, continuous learning, self-development is paramount for any business that wants to stay competitive. So we have to make sure that, yes, they have to hire youths and women, but businesses also have to invest in the technical know-how and the knowledge of these different employees. Okay, dernière question, et puis nous passons à la discussion.
Oui, Monsieur Combe, je voudrais savoir quelle est la place de la normalisation dans
la
norme. La norme dans l'étude que vous avez faite, parce que c'est vrai, ces accords sont un peu comme Janus Bifas, ils ont un côté positif, mais derrière, il y a une épée de Damoclès. C'est exporter nos produits qui sont soumis à une certaine normalisation et des personnes qui fixent les normes sont de l'autre côté de la barrière.
Okay.
Donc, je voudrais savoir comment vous avez abordé ce sujet. Merci.
Ok, merci beaucoup. Donc, si vous partez sur le rapport, page 19, vous aurez cette réponse. Mais les objectifs ne sont pas fixés par l'Europe ni l'Amérique du Nord. C'est fixé également par nous. Quand tu achètes des pop-corn, tu ne veux pas retrouver la terre dans ton pop-corn, n'est-ce pas? Tu ne veux pas retrouver les cheveux dans ton pop-corn. Ce n'est pas l'Europe qui vient nous dire que ne mettez pas les cheveux dans la nourriture. C'est des critères et des mesures qui sont relatifs à l'Europe et également à l'Afrique. Ça a à faire avec la sanitation. Donc, si on veut qu'on ne brûle pas le cacao sur le feu, comme on fait le poisson brisé, c'est parce que ça a des particules qui sont dangereuses pour la santé. Ça n'a rien à voir avec juste l'Europe qui impose. Dans ces études, nous avons fait allusion à des barrières techniques et des mesures sanitaires dans ce rapport. Et le labeling, la qualité, la certification, la norme joue un rôle très très important en termes de certification parce que les entreprises, c'est comme la certification ISO qui est bien plus internationale. Les entreprises doivent payer pour se faire certifier, alors ça ne coûte pas cher. Ce que nous pouvons proposer, c'est que le rôle que la norme joue peut être subventionné. Si les entreprises payent 50% du montant ou 100% du montant, ça peut encourager plus d'entreprises à aller vers la norme pour certifier leurs produits. Et aussi, c'est important pour la norme de travailler avec les ONG comme CEPI et les parties prenantes